Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission du Bar de l'économie sur IDFM Radio Anguin. Florence Sueur au micro, accompagnée de Philippe à la technique et toujours bien sûr en vidéo live via Facebook, page Bar de l'économie. Et puis vous pourrez retrouver toute cette émission ensuite sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous. Alors le thème du jour aujourd'hui, eh bien, ce sera l'intelligence artificielle, comment l'apprendre. On va donc parler d'éducation, d'intelligence collective, d'intelligence collaborative, de plateforme d'expérimentation. On va parler de compétition, d'innovation bien sûr, mais aussi de responsabilité sociétale et du rôle de la région Île-de-France dans ce domaine. Parce que à mes côtés, j'ai la chance d'avoir Lionel Grotteau. Bonjour.
Bonjour Florence.
Vous êtes le directeur général de l'institution Choose Paris Région, l'agence de promotion et d'attractivité de la région Île-de-France qui a été créée en 2014. Vous venez de signer un partenariat avec Ivan City qui est à vos côtés d'ailleurs. Bonjour Tawid Chiwi.
Bonjour Florence, bonjour à tous.
Vous êtes le président fondateur donc de cette nouvelle école qui s'appelle Ivan City School for Technology, Business and Society. Je traduis, l'école supérieure d'intelligence artificielle de business pour la société, formant de futurs ingénieurs que vous voulez responsables pour l'humanité. Et vous êtes installé sur le campus universitaire de Cachan. Et puis à nos côtés, Philippe Blanchard, bonjour.
Bonjour Florence.
Vous êtes le président fondateur de Futurus. Vous intervenez, vous rapprochez le monde du sport et la technologie. Et vous êtes d'ailleurs installé à Dubaï, à Lausanne. On a beaucoup de chance que vous soyez avec nous aujourd'hui. Et pour vous, les nouveaux usages rendront l'expérience encore plus immersive. On sera très intéressés que vous nous donniez quelques exemples. Et donc, voilà un petit peu pour parler de tous ces sujets autour de l'intelligence artificielle. Alors, comme d'habitude, les infos du jour. Nous sommes vendredi, donc on commence à se détendre et on commence tout de suite avec notre experte bien-être, Céline Mestre, pour la gestion des émotions.
Bonjour Florence, bonjour à tous. Aujourd'hui, une chronique bien-être autour de la gestion des émotions. Pourquoi gérer ses émotions permet de mieux communiquer avec son entourage ? Alors, celles et ceux qui travaillent dans la pub le savent bien, hein, l'impact des émotions dans la communication est considérable. Mais dans nos relations quotidiennes aussi, la communication joue sur la corde des émotions. Mais c'est quoi au juste une émotion ? Pourquoi et comment la communication est-elle génératrice d'émotions ? Est-ce qu'il est possible de gérer ses émotions pour mieux communiquer avec son entourage ? C'est Paul Ekman, un psychologue américain, qui a établi dans les années 70 une liste de 6 émotions de base. La tristesse, la colère, la joie, le dégoût, la surprise et la peur. Cette liste reste encore aujourd'hui une référence en la matière. Et comme pour les couleurs, il existe des émotions primaires et de nombreuses nuances. Par exemple, on considère souvent que la honte est un mélange de colère et de peur. Quoi qu'il en soit, nos émotions sont tout à fait naturelles. Les mammifères ou les fœtus ressentent des émotions. Les émotions ont un rôle, notamment pour notre survie. Généralement, nous ne choisissons pas nos émotions, elles sont automatiques dans une situation. Elles peuvent être agréables ou désagréables, plutôt que positives ou négatives. Elles ont toujours un rôle à jouer, ce sont des signaux, elles sont utiles. Elles nous servent à agir, par exemple à nous défendre ou à attaquer en réponse à une menace qui nous fait peur. Elles nous servent à nous motiver. N'oublions pas que nous sommes tous programmés pour obtenir du plaisir et éviter la douleur. Et elles nous servent à communiquer et à influencer, puisque notre émotion envoie un signal à notre entourage et qu'on le veuille ou non, ce signal va influencer directement l'état émotionnel d'autrui. Nous avons donc tendance à juger nos émotions car nous les ressentons comme désagréables ou agréables, mais nous venons de voir qu'elles ont un rôle utile. Les émotions nous renseignent en effet sur nos besoins non satisfaits. Par exemple, lorsque vous vous sentez triste, vous pouvez avoir besoin d'écoute, de sens. Lorsque vous vous mettez en colère, c'est peut-être que vous avez besoin de reconnaissance, de considération. Ainsi, apprendre à écouter ses émotions, c'est prendre soin de ses besoins. Les émotions s'imposent à nous, nous ne pouvons pas les contrôler, mais nous pouvons agir sur les tensions, les gênes, les inconforts provoqués par nos émotions désagréables. Par exemple, si vous vous mettez en colère, vos poings se serrent, votre mâchoire se crispe, vos sourcils se froncent, vous criez. Commencez par ressentir tous ces signes dans votre corps. Ils vous renseignent sur l'émotion et donc sur le besoin non satisfait qui se cache derrière. Si vous ne pouvez pas agir sur l'émotion, vous pouvez en revanche décharger les tensions qu'elle provoque. Laissez se relâcher votre corps en conscience, portez votre attention sur votre respiration, laissez-la se calmer. Effectuez quelques mouvements de détente musculaire pour vous décontracter. Sophrologie et communication non violente, c'est le duo gagnant pour interagir au mieux avec votre entourage. Imaginez, votre assistante consulte son téléphone alors que vous êtes en train de lui donner des consignes pour un travail important et urgent. Vous ressentez de l'agacement, de l'impatience, parce que vous interprétez son comportement comme irrespectueux à votre égard, parce que vous avez peur que ce travail ne soit pas terminé à temps. Et peut-être que spontanément, vous auriez envie de lui dire « Tu ne m'écoutes pas, ce que je te dis ne t'intéresse pas, ça n'a pas l'air important pour toi, tu peux arrêter de consulter ton téléphone quand je te parle ?» Or, comme vu précédemment, il serait judicieux de commencer par vous écouter. Comment l'agacement se manifeste-t-il? Et puis libérer les tensions inutiles provoquées par cet agacement. Aller faire un tour, prendre l'air, respirer quelques minutes, vous détendre. Et puis revenir dans un état de calme et de relâchement tel que vous seriez capable de lui dire « Quand je vois que tu réponds à un SMS alors que je te parle, vous constatez. Je me sens frustré, vous exprimez votre sentiment, parce que j'ai besoin de toute ton attention afin d'échanger sur ce dossier important. » Vous exprimez votre besoin. Donc, est-ce que tu serais d'accord pour laisser ton téléphone de côté quand on se parle? Vous formulez une demande concrète et positive. En bref, restez à l'écoute de vos ressentis, libérez-vous des tensions provoquées par des émotions inconfortables et faites sentir à votre interlocuteur que vos besoins comptent autant que les siens. À bientôt!
Merci Céline Metz pour cette gestion des émotions. On va effectivement apprendre et notamment à gérer le fait quand on est énervé. Alors Tawid Chiwi, ça vous fait réagir?
Oui, ça me fait réagir parce que l'intelligence émotionnelle est très importante dans un certain nombre de métiers, notamment dans les fonctions dirigeantes où la pression peut être forte, on peut être confronté, comme dans le contexte d'aujourd'hui, à des problématiques assez variées et intenses. Et c'est vrai qu'elle émerge parmi les compétences les plus demandées pour les fonctions dirigeantes, parce qu'on a tendance dans le monde académique notamment à parler beaucoup d'intelligence académique, intelligence intellectuelle, hein, qui est mesurée par un quotient intellectuel, le QI, mais il y a aussi l'intelligence émotionnelle, qui est mesurée par un quotient émotionnel aussi, et cette capacité de gérer ses émotions est importante, parce que c'est derrière ça qu'on soit capable justement d'influencer, d'entraîner, d'accompagner, et j'ajouterais juste une troisième catégorie d'intelligence, qui en a 9 globalement, selon les meilleures théories, mais il y a l'intelligence sociétale, qui est aussi importante. Et je pense qu'aujourd'hui, pour pouvoir réussir dans le monde professionnel, il faut avoir aussi cette intelligence sociétale qui nécessite une certaine compréhension des enjeux sociétaux et donc une certaine responsabilité et puis une capacité d'interagir avec son environnement et en prenant en compte l'ensemble des parties prenantes.
On y reviendra sans doute tout à l'heure quand on va un petit peu plus parler de votre école parce qu'on sera intéressé de savoir quel cours vous allez envisager de donner. À vos côtés, Philippe Blanchard, est-ce que cette gestion des émotions vous fait réagir également?
Ça me fait réagir beaucoup parce que le travail qu'on a fait dans le domaine du sport, d'abord au mouvement olympique et puis après dans les expositions universelles, on utilise le sport parce que justement c'est un vecteur d'émotion. On a une émotion quand on suit son athlète préféré, son sportif préféré. On a une émotion collective aussi. Et c'est un des gros enjeux aujourd'hui quand on voit la place du Covid et comment il est en train de changer le monde du sport, comment on retrouve cette communauté collective et ces émotions collectives. Oui, ça me parle beaucoup.
Merci beaucoup pour vos interventions. Nous poursuivons l'info du jour. Maintenant, première info, c'est le lancement du cycle de conférences du Conseil d'État sur le thème de l'état d'urgence. Cette conférence sera à suivre en direct, c'est pour ça que je vous en parle, le 14 octobre sur leur site internet, donc celui du Conseil d'État, de 17h30 à 20h. Et elle évoquera les enjeux philosophiques, politiques et juridiques avec cet état d'exception qu'est cette pandémie. Et il y aura comme intervenant Bernard Cazeneuve, l'ancien ministre de l'Intérieur, François Molins, magistrat en exercice encore cette année. Et puis, il a aussi été procureur de la République auprès du tribunal judiciaire de Paris jusqu'en 2018. Et puis, il y aura Monique Cantos-Perber, philosophe, auteur d'un ouvrage sur la fin des libertés. Elle est également directrice et de recherche au CNRS. Vous, les internautes, vous pourrez poser vos questions en ligne et réagir aux interventions. Voilà pour cette premier rendez-vous. Donc, je vous rappelle que c'est donc le 14 octobre de 17h à 20h. Donc, ça s'appelle, donc, ce sera sur le thème, c'est l'état d'urgence, car le cycle de conférences du Conseil d'État démarre sur ce thème et il durera toute l'année, et même sur l'année 2021. Autre info du jour, c'est la SNCF qui continuera à échanger et à rembourser sans frais tous les billets grandes lignes jusqu'au 4 janvier 2021 pour encourager les Français à prendre le train malgré les incertitudes liées au coronavirus. En fait, depuis le mars, cette mesure avait été mise en place et devait s'arrêter au 1er novembre. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais derrière tout ça, c'est simplement que la SNCF fait beaucoup de promotions pour attirer les voyageurs, car son chiffre d'affaires s'est amputé de 3,7 milliards d'euros avec la pandémie, a annoncé Laurent Trevisani, le directeur général délégué stratégie et finances. Et ça, c'était dans les Échos. Autre info du jour, alors là, c'est cette fois, on part directement dans l'intelligence artificielle. C'est Amazon Go à Seattle, aux États-Unis, qui teste dans deux magasins le fait de payer ses courses en passant la main devant un lecteur biométrique, un scanner donc. Bien sûr, l'empreinte de la paume de la main est reliée à une carte bancaire. L'empreinte palmaire ouvre également les portes d'entrée sécurisées des deux magasins de Seattle, qui nécessitent généralement un code. La technologie sera déployée dans 20 magasin d'Amazon Go au fur et à mesure de l'avancement du test, a déclaré Amazon aux médias américains Recode. Le processus prend moins d'une minute et les clients peuvent enregistrer leurs deux paumes. En 2019, Amazon a fait breveter une technologie qui permettait d'identifier les mains des gens en analysant les caractéristiques comme les rides, les veines et même les os. Par mesure de sécurité, il faut scanner intentionnellement sa main, bien sûr, pour que le système fonctionne, ce qui empêche de payer évidemment les courses, par exemple, de quelqu'un d'autre. Philippe Blanchard, qu'est-ce que vous pensez de cette expérimentation ?
Je pense qu'elle est assez révélatrice d'un état d'esprit, surtout en Amérique du Nord, où la technologie est là pour se substituer à une certaine forme de rapport humain. Et pour moi, l'enjeu, c'est vraiment que la technologie soit un élément qui puisse à la fois optimiser nos achats en rendant ça plus efficace, mais également que ça puisse renforcer notre humanité. Et pour nous, dans le cadre de Futurus, et le slogan qu'on a retenu, rapprocher l'humanité et la technologie, c'est vraiment cette problématique-là. Donc je ne suis pas très positif par rapport à cette expérimentation.
Donc pour vous, la technologie, à un moment donné, doit s'arrêter. C'est ça que je comprends derrière vos mots.
Alors, je ne pense pas qu'elle doive s'arrêter. Je pense qu'on doit prendre conscience des enjeux que la technologie a. Et un des gros travaux qu'on veut faire en travaillant avec Tawid et ses équipes dans le cadre de Hive City, c'est justement regarder les éléments positifs et les éléments négatifs. Il y a un déterminisme technologique, c'est-à-dire que la technologie induit un certain nombre d'effets, mais en retour, il faut qu'on comprenne aussi que nous, en tant qu'individus, nous, en tant que société, on a aussi un rôle sur le développement de la technologie.
Et ce rôle, vous estimez qu'on ne le prend pas assez en compte en ce moment, c'est ça? Où on commence à se réveiller, à réagir?
Je pense qu'il y a une prise de conscience. Je pense qu'il faut qu'on aille plus loin. Et surtout qu'on comprenne mieux qu'est-ce qui se cache derrière la technologie et qu'on n'ait plus cette approche de technologie boîte noire. Et donc le travail d'éducation, ça c'est Tawid, le travail d'expérimentation, ça c'est nous, Futurus, est pour moi très important.
En fait, on est plus, ce que vous voulez dire, c'est qu'on n'est plus dans la révolution industrielle du type il y a 100 ans. Maintenant, il faut penser à l'impact à chaque fois qu'on imagine une nouvelle technologie. Parce que comme vous avez dit, on ne peut pas empêcher nos cerveaux de fonctionner et donc d'avancer. Donc, on ne peut pas empêcher les inventeurs d'inventer.
Alors, oui, mais ce qui est très intéressant, si on regarde l'histoire de la technologie, c'est que pendant très longtemps, la technologie a été au service de l'humanité. Donc, la roue nous a permis d'avancer plus vite, de transporter plus de matière, la machine à vapeur. Et donc, la technologie s'inscrivait dans un schéma de soutien à nos activités humaines. Aujourd'hui, je pense qu'il y a une barrière qui a été franchie et la technologie devient dans une logique de renforcement de son rôle. Et c'est ça qui m'inquiète, moi, en tant que, en tant qu'humain, en tant que papa, en tant qu'acteur de ma société et de mes communautés. Je voudrais bien qu'on prenne conscience quand est-ce qu'il y a ces ruptures entre le service à l'humain ou la technologie qui est là uniquement pour se servir elle-même.
Merci beaucoup pour cette intervention. Philippe Blanchard, Tawichiwi.
Oui, juste pour dire que la technologie ne change pas la société, c'est la façon avec laquelle on utilise la technologie ou l'innovation qui change les choses. Et c'est pour ça qu'il est très important de ne pas enseigner uniquement ou d'accompagner les jeunes à maîtriser la technologie, mais les accompagner aussi à dire quels sont les enjeux sociétaux qu'il peut y avoir derrière et comment je peux avoir une utilisation ou une mise en œuvre responsable. C'est vrai que dans un contexte où on est dans une société sans contact de plus en plus, pouvoir ouvrir des portes avec la paume de la main, c'est très intéressant parce que ça répond aussi à un contexte bien particulier. Mais à partir du moment où on protège bien les données, à partir du moment où cette utilisation ne dépasse pas un certain nombre de valeurs éthiques, hein, qui sont d'ailleurs au cœur du positionnement de l'école qu'on crée, parce qu'on pense que l'enjeu de la technologie est principalement un enjeu sociétal et pas seulement un enjeu technique ou technologique. Et c'est pour ça que la prise de conscience derrière l'utilisation de cette technologie-là et puis les enjeux qu'il peut y avoir derrière sont très importants, aussi importants que la technologie elle-même.
Merci beaucoup pour votre intervention, Tawichiwi. Je rappelle que vous êtes le fondateur de l'école Ivan City. Autre info du jour, c'est donc Miracle, ça s'écrit M-I-R-A-K-L, qui devient une licorne française, c'est-à-dire une jeune entreprise en hypercroissance non cotée en bourse et dont la valorisation s'élève à au moins $1 milliard, comme par exemple Doctolib ou Blablacar ou Vodou, dont on a entendu parler cet été. Vodou, c'est un développeur et éditeur de jeux vidéo sur mobile qui a été valorisé en août dernier à $1.2 milliard. Alors, Miracle édite des solutions pour les places de marché en ligne. Elle vient de réaliser une levée de fonds record en France d'un montant de 255 millions d'euros, une opération menée par le fonds international anglo-saxon Permira, et elle a été valorisée à $1.5 milliard. Elle a été lancée en 2012, elle est basée à Paris, et Miracle revendique pas moins de 300 clients dans le monde, dont la Fnac, Darty, Carrefour ou Conforama, ou encore des chaînes américaines de supermarchés comme celle de Kroger. Miracle permet à ses clients de rivaliser avec les géants du secteur, comme Amazon ou Alibaba, a assuré Philippe Corot, le président fondateur de l'entreprise à l'AFP. La société se rémunère en prélevant un pourcentage sur les ventes réalisées par les places de marché qui utilisent sa plateforme logicielle. Et elle se dit rentable, ce qui n'est pas souvent le cas d'ailleurs pour les startups. Et elle compte profiter des fonds de levée pour embaucher 1000 nouveaux collaborateurs dans le monde, dont 300 ingénieurs essentiellement basés en France. Et ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle, n'est-ce pas, Lionel Grotteau?
Ah, effectivement, c'est révélateur d'un écosystème d'innovation en France qui a considérablement pris son essor et qui est une réalité aujourd'hui qui est de plus en plus reconnue. Je pense que c'est une opportunité parce que l'innovation permet d'imaginer l'avenir de manière positive dans une période qui n'est pas forcément toujours facile pour tous nos concitoyens. Mais je pense que ces belles histoires, donc c'est pas la seule. Et Paris est je pense aujourd'hui bien positionné en Europe et de manière générale dans les grands écosystèmes d'innovation mondiaux pour être une de ces capitales de l'innovation dans laquelle on invente les solutions de demain pour répondre aux grands défis qui se pose à nous. Je trouve ça plutôt enthousiasmant et effectivement c'est dans cette optique aussi qu'agissent les pouvoirs publics, État, région et autres acteurs, et en lien avec les partenaires privés bien sûr.
Bien sûr, on va en reparler dans quelques secondes ensemble si vous voulez bien, Lionel Grotteau. Je rappelle que vous êtes le directeur général de Choose Paris Région. Dernière info du jour, parce que quand même là je pense que ça va vous intéresser, mais ça montre une pratique commerciale assez particulière. C'est pour attirer ses clients vers son nouveau smartphone, le Pixel 5 et le Pixel 4a. Bien sûr, pour la 5G, Google offre un casque Bose aux premiers acheteurs, un casque quand même qui vaut à peu près 350 €, enfin 349 exactement. Bref, il s'agit d'un casque intelligent sans fil à réduction de bruit et un casque haut de gamme. Alors, pour bénéficier de l'offre, parce que je pense que ça peut intéresser beaucoup d'entre vous, il faut acheter le Pixel 5 entre le 30 septembre à minuit et le 14 octobre à minuit, évidemment. Ou alors, si vous voulez acheter le Pixel 4, qui est un peu moins cher, toujours les deux compatibles 5G, il faudra l'acheter entre le 5 novembre et le 18 novembre, toujours, bien sûr, à minuit ou avant minuit, sur le Google Store ou sur chez l'un des revendeurs participants à ces offres. Alors, les revendeurs, c'est du genre boulanger, enfin, je ne vais pas tous les citer, vous allez trouver tout seul, je pense. Voilà, en tout cas, je voulais vous le dire parce que je pense que ça peut intéresser plusieurs d'entre vous. Et 14 jours après la commande et dans les 45 jours suivants, vous devriez faire une demande sur la page pixel-offers.com pour tenter d'obtenir le précieux casque. Donc vous voyez que cette commande se fait en plusieurs étapes. C'est donc une pratique commerciale nouvelle. Voilà, c'était l'offre de Google. C'était ma dernière info du jour, mais j'ai quand même envie de vous demander, Philippe Blanchard, ce que vous en pensez.
Moi, je trouve que c'est assez intéressant de voir que Google, qui est passé d'un moteur de recherche, et au début on imaginait que l'information était mise gratuitement et gracieusement à disposition, et de plus en plus on prend conscience que ça s'inscrit dans un schéma où on est profilé, on anticipe de mieux en mieux nos comportements, on vend nos comportements à des acheteurs, à des agences de publicité ou à des fabricants de produits ou marchands de services. Et donc, ça fait partie des évolutions de la société qu'il faut qu'on comprenne et sur lequel ensuite il faut qu'on dise, bah oui, ça m'intéresse, mais je fais mon choix en connaissance de cause et éviter ce consumérisme qui parfois m'inquiète un petit peu.
De toute façon, tout le monde ne sera pas servi, évidemment, puisque l'offre est valable que dans la limite des stocks disponibles, dit Google, mais évidemment, je ne connais pas. Ils n'ont pas annoncé la quantité. Tawid Chioui.
Juste pour dire que Google montre encore une fois que même s'il n'a pas les meilleures technologies, il a toujours les meilleurs business models. Et que c'est ça ce qui est intéressant aussi pour pouvoir se développer économiquement. C'est pas que avoir la meilleure technologie, la plus récente, etc. Mais c'est de comprendre quels sont les business models qu'il y a derrière.
Effectivement, et c'est pour ça que j'avais sélectionné cette info. Alors, dernière info du jour. Non, mais en plus, très importante. C'est la région Île-de-France, le groupe ADP et le groupe RATP qui annoncent l'ouverture d'une zone de test en grandeur nature sur l'aérodrome de Pontoise-Cormaillan-Vexin en Val d'Oise pour développer une filière autour du véhicule à décollage vertical à partir de juin 2021 avec le soutien de l'Agence européenne de la sécurité aérienne et d'Eurocontrol, l'organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne. Alors, ce sont des opérations de stationnement, de décollage et d'atterrissage qui vont pouvoir être testées en situation aéronautique réelle, ainsi que des opérations autour du véhicule, par exemple la maintenance ou alors la recharge électrique. Dès le premier semestre 2021, les aménagements nécessaires seront effectués du côté des pistes et des espaces, évidemment, et puis aussi des bâtiments, bien sûr. Et puis, très intéressant, par contre, je voulais vous le signaler, c'est que pour les entreprises qui s'intéressent à tous ces développements du décollage vertical et donc de la mobilité, de la immobilité, comme on dit maintenant, eh bien, un appel à manifestation d'intérêt international est lancé afin de fédérer un écosystème de grands groupes, de PME, de start-up, de laboratoires et d'universités. Et les candidatures sont ouvertes dès aujourd'hui jusqu'au 13 novembre via le site reinventerymobility.fr. Je le mettrai sur notre page Facebook, bien sûr, et YouTube. Et les projets retenus seront annoncés le 18 décembre 2020. Alors, j'imagine, Lionel Grotteau, en tant que directeur général de Choose Paris Région, que vous êtes au pilotage de tout ça?
Oui, absolument. Ce sont des échanges qu'on a démarrés il y a tout juste 3-4 mois avec nos partenaires d'ADP et de la RATP, avec l'idée de pouvoir se positionner comme un écosystème intéressant pour les entreprises de ce secteur, donc de la ce qu'on appelle mobilité aérienne verticale. Donc là, il s'agit en fait d'un engin. Donc en fait, on a rencontré au cours de l'été la société Volocopter, qui est une société allemande, avec nos partenaires d'ADP, pour effectivement leur présenter l'écosystème français, francilien, plus particulièrement autour de l'aéronautique, qui est extrêmement riche. qui connaît des difficultés aujourd'hui, mais justement. Et effectivement, on a très vite avancé avec eux pour travailler sur cette initiative et cet appel à projet qui, avec la particularité qui est la nôtre, que donc c'est un site web qu'on a monté très très rapidement au cours des dernières semaines et qui effectivement est ouvert à la fois aux sociétés françaises mais aussi internationales, ce qui fait un petit peu la particularité de nos actions, puisqu'on a déjà lancé ce même type d'initiative pendant la période Covid pour aider le groupe ADP justement à sourcer des solutions innovantes par rapport à la période Covid, et on a eu plus de 300 candidatures venant de 30 pays. Donc c'est bien ça aussi qui fait la particularité de cette approche, qui est pas uniquement française, mais avec une approche d'innovation, une approche d'attractivité pour la région, puisqu'on est vraiment à cette échelle au niveau de la région Île-de-France.
Alors en plus, c'est très intéressant pour le Val-d'Oise, qui est un gros département aéronautique, hein, et puis il y a Roissy qui est bien sûr dessus, et donc ADP qui gère, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Lionel Grotteau. Vous avez déjà 300 intérêts qui ont répondu à votre appel à manifestation d'intérêt, alors que le site vient juste d'ouvrir.
Non, pardon, ces 300 candidatures, on les a eues pour un autre appel à projet qu'on avait lancé pendant la période Covid. Au mois de mai, avec Groupe ADP, qui cherchait des solutions justement pour faciliter le trajet des passagers vers l'aéroport, toute la circulation au sein de l'aéroport, etc. Et donc il y a des solutions qui ont été primées derrière. Donc c'est juste pour illustrer l'approche qu'on a. On part d'acteurs du territoire pour aller chercher comment est-ce qu'on peut innover avec eux et aller voir des entreprises internationales en leur proposant finalement de venir s'inscrire dans des territoires et sur des filières d'attractivité de demain.
Alors j'imagine que pour ce développement de projet, vous pensez à l'application du genre taxi volant, c'est bien ça, Lionel Grotteau ?
Exactement.
Est-ce que vous pensez qu'il pourrait y avoir d'autres innovations qui pourraient émerger ? Est-ce que vous y avez imaginé d'autres choses ? Ou est-ce que c'est principalement autour de l'amélioration de la mobilité par les taxis volants ?
Autour de l'avion du futur, il y a beaucoup d'idées différentes. Donc là, on a focalisé sur un sujet qui est effectivement le taxi volant, avec cet écosystème autour de Pontoise, avec l'idée de pouvoir relier, en complément bien sûr des transports en commun, des autres modes de transport, mais des grands pôles régionaux avec ce mode de mobilité. Maintenant, effectivement, il y a des idées autour de l'avion électrique qui sont également travaillées, pas nécessairement sur Pontoise d'ailleurs, mais effectivement là on est vraiment sur cette thématique.
Est-ce que c'est uniquement l'électrique qui est réfléchi sur cette thématique, ou est-ce qu'on pense à d'autres technologies? Puisque je pense à ça parce que Bill Gates s'est exprimé il n'y a pas longtemps pour dire qu'il pensait que l'électrique n'était pas une vision du futur pour les gros porteurs et pour notamment même le transport routier, le type camion, bus, etc. Qu'est-ce que vous en pensez, Lionel Grotteau?
Alors, je suis pas un spécialiste de la mobilité en soi, mais c'est vrai que les solutions volantes électriques pures sont a priori plus simples sur plutôt des petits porteurs. Là, on est par exemple sur c'est une solution full électrique et elle est effectivement limitée à deux personnes, le pilote et son passager, là sur ce périmètre-là. En tout cas pour l'entreprise allemande qu'on a utilisé pour la communication et pour la première marque d'intérêt pour lancer la démarche. C'est vrai que sur des véhicules plus gros, que ce soit terrestre ou aérien, c'est effectivement plus compliqué. On avait discuté un moment avec un ancien responsable d'Airbus qui avait lancé une démarche. Effectivement, on sait que les fans d'Airbus à un moment donné avait été un peu abandonné, et une société qui s'était créée en marge autour des sociétés électriques. Effectivement, il y avait cette problématique de plus le porteur est gros et plus c'est compliqué. On est plutôt sur des solutions hybrides de motorisation.
Voilà, donc je rappelle, merci beaucoup Lionel Grotteau, je rappelle que vous êtes le directeur général de l'agence Paris Choose Région, et que je vais donc rappeler cet appel à projet, parce que c'est très important pour les entreprises, quelle que soit leur taille d'ailleurs, et tout comme les laboratoires et les universités. Donc un appel à projet qui est ouvert depuis hier et jusqu'au 13 novembre pour tous ceux qui sont intéressés par la e-mobilité autour de l'avion. Eh bien, il faut aller vous inscrire sur le site reinventerimobility.fr. allez faire. Et les projets retenus seront annoncés le 18 décembre. On va tout de suite, bien sûr, faire une petite respiration musicale. Et puis ensuite, on poursuit sur notre sujet du jour, bien sûr, l'intelligence artificielle. Voici de retour au bar de l'économie sur EDFM Radio Anguin. Aujourd'hui, nous parlons intelligence artificielle et autour de ça, bien sûr, on va parler de sport, de compétition, d'intelligence collaborative, mais aussi du rôle de la région Île-de-France, car j'ai la chance d'avoir à côté de moi, avec moi, Philippe Blanchard, le président fondateur de Futurus, Tawi Chiwi, le président fondateur de l'école Ivan City, et Lionel Grotto, le directeur général de l'institution Choose Paris Région. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'on commence, si vous voulez bien, Lionel Grotto, par présenter votre institution. Expliquez-nous un petit peu l'objectif de cette nouvelle agence, j'allais dire, puisque le nom a changé en fait, qui est de promouvoir et de la promotion et l'attractivité de la région Île-de-France. Est-ce que dans le monde, c'est pour le monde international, est-ce qu'il faut se battre? C'est ça un petit peu l'esprit de Choose Paris Région?
Oui, se battre, mais en restant dans quand même de la construction positive pour les territoires. On pourra y revenir, mais nous, c'est donc on est une agence d'attractivité, comme il peut en exister dans beaucoup de métropoles, que ce soit en France ou à l'étranger. On est 80 collaborateurs qui sont basés 70 à Paris, dans le 19e arrondissement. Et puis on a une présence également aux États-Unis, qui est notre premier, disons, marché de source d'investissement étranger, à la fois côte Est et côte Ouest, et puis également en Chine, sur un marché avec énormément, effectivement, d'innovation. Quand on parle d'intelligence artificielle, beaucoup de choses qui bougent également là-bas. Et notre mission, c'est effectivement d'assurer l'attractivité, la promotion de la région Île-de-France, d'accompagner les entreprises internationales qui souhaitent se développer pour une première implantation, mais aussi pour réinvestir dans les territoires, et puis ensuite mener certaines actions pour pouvoir renforcer l'attractivité. Et donc, pour faire ça, le travail qu'on mène maintenant est de manière vraiment renforcée depuis 3 ans, c'est de travailler de manière très forte en lien avec nos partenaires. Ce qu'on pense, c'est que tout seul, on est très faible, en fait, pour porter un discours là où on va être fort. C'est si jamais on porte un discours cohérent avec un certain nombre d'acteurs autour de nous qui ont aussi leur réseau, leur capacité à convaincre, leur capacité à transformer la région Île-de-France. Et donc, on s'est entouré de tout un tas de partenaires, à la fois des collectivités, des entreprises, qu'elles soient françaises ou étrangères, de partenaires écoles. Voilà, Tawid à mes côtés en est un exemple, pour pouvoir justement mener des actions ensemble, que ce soit des actions de prospection commune, l'exemple qu'on citait tout à l'heure de la mobilité aérienne volante en étant, que ce soit des actions de communication, que ce soit des actions plus structurelles sur les territoires de transformation et d'accompagnement de ces territoires vers certaines filières qui souhaitent développer.
Alors justement, vous avez parlé donc de se développer également à l'international et que vous avez un pied, donc je répète ce que vous avez dit évidemment aux USA et en Chine. On a aussi entendu avec cette pandémie que la France n'avait plus certaines industries, notamment par exemple dans les médicaments. Est-ce que vous allez développer l'attractivité de la région parisienne, donc de la métropole, comme vous dites, aussi dans d'autres pays? Est-ce que vous envisagez... Enfin, comment va-t-on faire alors qu'on ne peut plus trop voyager en ce moment? Est-ce que c'est aussi un objectif que de vous développer dans d'autres pays étrangers?
De nous développer, nous, en tant qu'agence, dans d'autres pays étrangers, non. Mais on a, comme je disais, un certain nombre de partenaires, de réseaux avec lesquels on travaille, que ce soit Business France, bien entendu, le réseau diplomatique français, ne serait-ce que les entreprises françaises présentes à l'étranger, tout le réseau des CCEF. Tout ça, c'est des acteurs qui travaillent avec nous, qui sont, pour être très concret, dans notre assemblée générale. On est une association aussi, donc on fonctionne plutôt comme une entreprise, mais on a un certain nombre de partenaires qui sont avec nous et qui construisent avec nous ces actions. Et donc, pour répondre à votre question, oui, on travaille sur ces sujets de relocalisation industrielle, même si le terme est peut-être pas le bon. En fait, c'est essentiellement ce qu'on voit, c'est plutôt des entreprises déjà implantées qui vont réinvestir. C'est là qu'on va voir les projets les plus porteurs d'emplois. Nous, on a en portefeuille aujourd'hui 65 projets stratégiques, dont 12 qui sont des unités de production ou de réalisation. La plupart sont dans deux secteurs, les mobilités et la santé.
Ce sont les deux secteurs phares vers lesquels la France veut aller. En tout cas, ça fait partie des secteurs annoncés par Bruno Le Maire, d'ailleurs. Alors, Lionel Grotteau, vous venez de signer un partenariat avec l'école Ivan City, qui est représentée à vos côtés par Tawid Chiwi. Expliquez-nous un peu quel partenariat on peut signer avant qu'on entre dans le détail du partenariat avec cette école. Ou bien, qui peut venir signer des partenariats? Et quelles sont les élections possibles?
On fonctionne comme une entreprise, je pense. Certains de vos interlocuteurs seront salariés ou chefs d'entreprise. On fonctionne comme une entreprise. Donc les partenariats, on les signe en fonction des intérêts communs qu'on peut avoir, qui peuvent se rencontrer lors d'une rencontre. Voilà, on s'est rencontrés avec Tawid, avec son équipe. Il nous a présenté le projet. On a partagé. Et donc c'est comme ça que c'est né assez vite, en fait, de l'idée de pouvoir soutenir cette initiative. Déjà, pour nous, c'est un moyen, en fait, aussi d'être, et on le disait en souriant dessus, mais c'est un peu ça, un peu une bonne fée aussi qui se penche sur cette école,
sur un bébé,
qui est en train de se créer et qui a besoin, en étant France, donc de soutien institutionnel. Et donc on est heureux de pouvoir apporter un peu cette caution un peu institutionnelle publique. Donc ça c'est clairement un premier point.
Donc et à la limite, nous... si des entreprises nous entendent, et il y en a beaucoup qui nous entendent aujourd'hui, on peut taper à votre porte, on vous présente un projet, quel que soit l'avancement du projet, et on est reçu et vous, ensuite vous tranchez, j'imagine. Est-ce que c'est aussi simple que ça?
Comme vous comprenez, on est une structure qui, effectivement, comme toute structure entreprise, on a des moyens qui sont bien sûr limités. Donc, on essaye de cibler des partenariats qui peuvent être stratégiques pour nous. Pour nous, l'intelligence artificielle est un sujet stratégique. Le sujet de l'éducation et des talents est un sujet majeur pour les entreprises, qu'elles soient françaises et qui souhaitent se développer, ou les entreprises étrangères. On a des entreprises qui souhaitent venir s'implanter en Île-de-France, qui veulent par exemple monter un laboratoire, un centre de recherche, que ce soit sur l'IA ou sur d'autres sujets. Parfois, la seule question qu'ils nous posent, c'est mettez-nous en contact avec une autre entreprise qui a recruté 100 data scientists. C'est la seule question. Et donc ça on voit bien que aujourd'hui, la France a réussi à convaincre, on parlait tout à l'heure de la levée de fonds, de la qualité de son écosystème d'innovation. Maintenant, il faut qu'on continue à faire cet effort de formation, d'éducation, et effectivement, pas se tromper sur nos priorités.
Et donc, c'est ça. Donc, c'est pourquoi vous avez deux secteurs prioritaires, comme vous l'avez dit, la mobilité et puis la santé.
On en a d'autres, mais c'est effectivement sur ces secteurs qu'on a le plus de demandes entrantes.
C'est le plus de demandes. Merci beaucoup. Alors, on va donc... merci beaucoup, Lionel Grotteau. Alors, justement, vous venez de signer un partenariat avec Ivan City qui contribuera à pousser un petit peu cette école. Quel est l'objet de cette école, Tawid Chiwi?
Alors, cette école a pour objet de rompre avec des logiques peut-être traditionnelles qu'on a connues aujourd'hui dans l'enseignement supérieur en France où... en tant que grande école, on est soit école de commerce, soit école d'ingénieur. Et c'est vrai, quand on voit émerger un sujet comme l'intelligence artificielle et tout ce que ça engendre comme transformation, on se pose la question sur est-ce que c'est un objet technologique, est-ce que c'est un objet économique, est-ce que c'est un objet sociétal. Et finalement, c'est tous les trois. Et c'est là où on se dit, OK, on n'a pas aujourd'hui peut-être un positionnement en matière de formation qui répond à cet enjeu multiple, qui est un enjeu hybride, qui est un enjeu multidisciplinaire, parce que nos institutions d'enseignement supérieur sont très organisées par discipline. Et c'est pour ça que l'idée est venue de dire, il faut qu'on crée, compte tenu de l'évolution qu'on connaît dans l'intelligence artificielle et ce que ça va engendrer en termes de demandes métier, mais aussi de transformation de compétences et de pratiques dans les entreprises, de former ce qu'on appelle nous les engineers, les IA-géniers de demain, qui sont capables de comprendre les enjeux technologiques, de comprendre les enjeux et les implications économiques, mais aussi de prendre en considération la dimension sociétale et de responsabilité.
En fait, ce que vous voulez dire, c'est que finalement, le reproche qu'on fait, qu'on refait beaucoup, enfin souvent aux ingénieurs, c'est le comportement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas cette notion des têtes bien faites et d'adapter le comportement. On a du mal. Quelquefois, ils ont du mal à communiquer avec d'autres services. En tout cas, c'est ce qu'on entend dans les entreprises industrielles. Et vous, c'est un petit peu ce que vous voulez faire, c'est-à-dire mélanger. On va voir les cours que vous allez proposer. Est-ce qu'il va y avoir de la philosophie? Des cours d'éthique, des cours, je sais pas moi, de sociologie mélangés à des mathématiques, à de la physique. Enfin, j'imagine que on peut pas se baser des sciences fondamentales.
Absolument, c'est une hybridation totale entre les aspects informatiques, technologiques, les aspects business management et les aspects éthiques. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est 50% de techno, toutes nos formations, hein, 25% de business management et 25% d'éthique. Éthique, il faut le prendre ici, et c'est un mot valise, hein, il faut le prendre au sens le plus large. Il y a les questions relatives à la confiance dans le système, il y a les questions de biais, je peux revenir là-dessus avec des exemples si vous souhaitez, la robustesse des algorithmes, les travailleurs du clic, la sociologie, la morale, enfin toutes ces dimensions-là sont dans la dimension éthique. C'est vrai qu'on est allé voir, nous, 200 recruteurs, on a fait une analyse du marché de l'emploi et on voit bien une carence parce que on peut avoir des gens qui comprennent très très bien la techno mais qui n'ont pas la capacité de comprendre les enjeux métiers qu'il peut y avoir derrière, l'interaction de l'entreprise avec son environnement, quelle implication sociétale peut créer un système IA ou une solution IA. Et c'est extrêmement important de pouvoir imbriquer et hybrider tout ça. C'est-à-dire, il faut sortir de la logique qu'on a qui est celle de l'accumulation ou de l'addition de compétences, où on met une couche techno, et puis au-dessus, on met une couche management, et puis finalement, on apporte un tout petit peu d'éthique à côté, et les choses ne sont pas imbriquées. Dans l'entreprise et dans la réalité de la vie professionnelle, on prend une décision, elle est nécessairement multidimensionnelle. Donc il faut qu'on soit capable, dans notre raisonnement et donc dans notre formation, de pouvoir intégrer ces dimensions-là. Et c'est comme ça qu'on essaie de construire justement tous les programmes, avec cette imbrication totale et cette hybridation totale entre les trois dimensions.
Alors c'est une école qui vient de se créer. Combien de temps durent les études? Comment ça se passe? Quelles sont les sélections? Ou y en a-t-il pas? Je ne sais pas. Expliquez-nous un peu le process et qui prenez-vous? Qui peut rentrer dans cette école? À partir de quel âge?
Tawid Chiwi. Quand on dit école, c'est plusieurs programmes justement. Donc on a essayé autour du triptyque intelligence artificielle, business management et éthique, on a construit un autre triptyque en matière d'offre de formation. D'abord, la formation initiale, elle est destinée à des jeunes qui viennent après le bac pour un programme en 3 ans qui est un bachelor en intelligence artificielle à appliquer. Et puis des gens qui peuvent venir post-premier diplôme, soit après un bac plus 2 ou 3, pour avoir un master en data science et intelligence artificielle pour le business. Et évidemment, on a aussi une offre executive education qui est... destiné aux entreprises, parce qu'on forme au métier de l'IA, mais on forme aussi aux compétences. C'est-à-dire tous les managers aujourd'hui, ceux qui sont dans les directions marketing, ceux qui sont dans les directions de systèmes d'information, etc., etc., sont concernés directement par cette transformation et l'arrivée massive des données. C'est là, aujourd'hui, c'est la plus grande richesse des entreprises. C'est l'ordre noir de demain, c'est la donnée. Comment l'utiliser, comment la transformer, comment accompagner justement les entreprises à intégrer les données dans leur offre produits-services, dans la façon avec laquelle ils interagissent avec leurs consommateurs. Donc, il va falloir effectivement former les managers aussi aux compétences liées à la donnée. Donc, il y a toute la partie exécutive où effectivement, on accompagne les entreprises à intégrer, à se former à ces dimensions-là. Et puis, il y a la dimension aussi online education qui est importante aussi pour nous parce qu'elle permet de démocratiser l'accès au contenu et à ces sujets-là. Et elle permet d'ouvrir effectivement les perspectives, notamment à l'échelle internationale, surtout que le positionnement de l'école est assez unique en Europe, voire dans le monde. Et puis, on a même un programme d'été qui est destiné à des lycéens, parce qu'on se rend compte qu'effectivement, il faut sensibiliser les jeunes à ces métiers aussi émergents. Il y a 300 000 chercheurs dans le monde et experts dans l'IA, alors que les besoins sont déjà en millions. Et demain, quand la PME sera encore concernée par ces sujets-là, les besoins vont être encore plus importants. Donc, il faut que, dès le plus jeune âge, on accompagne les jeunes à comprendre les enjeux de la donnée, à comprendre que toutes ces solutions qu'ils ont dans leur smartphone, quelles sont leurs implications sociétales, c'est quoi l'IA qu'il y a derrière et quels sont les métiers et les secteurs qui seront concernés par ça demain. Donc on aura même un programme d'été qui est destiné à des lycéens sur un mois pour pouvoir comprendre les enjeux, les perspectives, les challenges qu'on a derrière toutes ces problématiques de big data et d'intelligence artificielle.
Alors, Tawid Chiwi, vous ouvrez donc une école à Event City. Vous dites qu'on aura pour l'été des programmes donc d'un mois, par exemple, pour les lycéens. Comment, on est en pleine pandémie, comment vous pouvez ouvrir une école en pleine pandémie? Est-ce que vous allez faire de la formation à distance? Est-ce que vous allez les faire venir?
Moi, j'ai commencé à travailler sur le projet le premier jour du confinement. Et si on s'était dit, c'est vrai qu'on peut prendre les choses comme étant des contraintes, moi je l'ai pris comme une opportunité, je me dis je vais avoir un peu plus de temps et je vais pouvoir être plus concentré sur la création, parce qu'il faut beaucoup de création, de réflexion, et puis c'est vrai que les gens étaient beaucoup plus disponibles qu'avant, les rendez-vous qu'on obtenait en 3-4 semaines, on les obtenait en 24 heures, 48 heures, donc en 6 mois on a fait ce qu'on aurait pu faire en 2 ans, et on a essayé de transformer ça en opportunité, et en allant voir notamment les financeurs à chaque fois, ou les partenaires, on leur disait, dans un contexte difficile comme ça, il faut des signes d'espoir. Et si on se concentre uniquement sur la crise et sur aider à la relance, à sauver, etc., on rentre dans une dynamique qui est négative. Il faut avoir quelques signaux qui sont positifs et qui permettent de redonner espoir et qui permettent de dire, on table aussi sur demain, à la sortie de crise. Si on n'a pas engagé dès maintenant de nouvelles initiatives, à la sortie de crise, on aura du mal pour redémarrer. Mais si on engage dès maintenant un certain nombre de choses qui arriveront à une situation de stabilité, de croissance assez intéressante dans un an ou deux à la sortie de crise, c'est là où notre économie sera beaucoup plus performante. Et c'est un peu ça l'enjeu qui était pour nous. Donc on s'était dit, on réfléchit, on construit. C'est vrai que les cycles sont lents dans l'enseignement supérieur. On n'ouvre pas une école et demain, il y a des étudiants. Il y a une année de concours, de sélection, de promotion de l'école, il y a de liens avec les entreprises, avec les recruteurs, avec ceux qui vont recruter les étudiants pour les stages, pour les alternances.
Et puis il faut vous faire labelliser, j'imagine aussi.
Bien sûr, il y a toute la question
reconnaître par le ministère de l'Éducation,
reconnaître par c'est un long. Certain nombre d'instances. C'est long, bien sûr que c'est long. C'est long, tous ces processus administratifs, mais c'est ce qui permet aussi de protéger un peu le secteur et de lui donner son attractivité, parce que l'enseignement supérieur en France est quand même très, 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 très attractif à l'échelle internationale, même si on a perdu un peu notre attractivité ces dernières années, mais c'est en train de reprendre. Et pour nous, c'est pour ça que le choix de la région de Paris était très important, parce qu'on sait que c'est une région très attractive. C'est vrai, là, on ne passe pas une année blanche dans l'enseignement supérieur international, ça c'est clair, hein, la mobilité internationale a beaucoup baissé cette année, mais on sait que tout va être reconduit, en tout cas on espère, à la sortie de crise, et que on perdra pas tous ces étudiants internationaux qui auraient pu venir cette année, mais ils vont venir l'année d'après. Et là, on aura un flux de 2 ans qui va arriver. Donc on s'est dit, on est dans le bon timing si on arrive effectivement à avoir un projet différenciant. Parce que les écoles de commerce, il y en a partout dans le monde et ça se développe. Des écoles d'ingénieurs, il y en a. Mais des écoles qui sont comme ça, hybrides, intelligence artificielle, données, business, éthique, il n'y en a pas beaucoup dans le monde. Et en plus en France et en région parisienne, très attractive. C'est vrai que pour nous, c'était le bon moment pour y aller.
Tawid Chiwi, vous allez ouvrir, vous êtes en train d'ouvrir donc Event City, cette école. Quand pensez-vous que vous pourrez accueillir vos premiers étudiants?
On espère les accueillir en septembre. Enfin, sur la partie formation continue, professionnelle continue, on va commencer dès le mois de janvier. Mais pour les étudiants
janvier
en formation
2021,
initiale, absolument. Et pour la formation initiale, c'est en septembre 2021, puisqu'on s'est positionné sur un campus dans la ville de Cachan, dans les anciens locaux de l'ENS, où on sera installé avec d'autres écoles d'ingénieurs. Ce campus, c'est 12 mois de travaux, de réaménagement, parce qu'on a voulu en faire un campus en phase avec la logique pédagogique innovante de l'école. On voulait faire pas le campus de 2021, mais de 2040. Donc on est allé observer une vingtaine de campus très innovants dans le monde et essayer de s'inspirer des pratiques pédagogiques et de la traduction de ces pratiques pédagogiques dans les espaces. C'est vrai que notre secteur aujourd'hui est un secteur de l'expérience apprenant et pas des contenus. Donc l'expérience apprenant passe aussi par les espaces qu'on offre aux étudiants, même si on parle beaucoup de distanciel, mais on peut revenir sur le débat. Pour moi, c'est très discriminant le distanciel. Donc on a envie d'offrir à nos étudiants une expérience physique sur un campus très innovant. Et donc il y a 12 mois de travaux, d'aménagement, de réflexion, d'adaptation des espaces, d'équipement. Et on sera prêt, en tout cas on l'espère, pour la rentrée de septembre 2021.
On comprend avec votre exposé que vous ne voulez peut-être pas faire de cours didactiques tels qu'on les faisait avant en amphi, mais que vous voulez plus faire apprendre par peut-être l'expérience, la pratique, plus que par la théorie, c'est ça ?
Par la pratique, le bon mix entre la technique et les fondamentaux qui permettent d'inventer la technique de demain. Parce que le problème d'un certain nombre d'institutions qu'on a aujourd'hui, c'est qu'ils donnent que la couche technique. Donc l'étudiant, au bout de 3 ans, quand la technique a changé, notamment en intelligence artificielle, aujourd'hui on utilise des logiciels, enfin des systèmes qui n'ont même pas été inventés, ils ont été inventés il y a quelques semaines encore, et puis ils vont se développer dans les années à venir. Donc, si on donne aux apprenants que la couche technique, demain ils ne seront pas capables, quand la technique change, d'évoluer et de se transformer, il faut leur donner un bon mix entre les fondamentaux et la technique ou la pratique qui leur permet une certaine insertion. Mais l'insertion, c'est pas l'employabilité. L'employabilité, c'est 40-43 ans de carrière. Donc il faut être capable de s'adapter, de se réinventer, d'où la nécessité d'avoir aussi les fondamentaux théoriques.
Et c'est ça qui est difficile pour l'être humain, parce que ça va très vite, comme vous disiez.
Bien sûr, absolument.
Et donc c'est très compliqué de s'adapter. Alors Lionel Grotteau, Choose Paris Région devient donc membre de cette future école. Vous allez être aux membres de direction, enfin d'administration. Est-ce que c'est aussi cette manière de vouloir former les jeunes et les moins jeunes, de permettre aussi aux femmes d'accéder à la technologie, puisqu'on reproche aux jeunes filles qui sont en bac de ne pas choisir des formations scientifiques. Et puis on a vu très récemment l'étude du ministère, qui est sortie cette semaine, du ministère de l'Éducation, le niveau de maths des collégiens a énormément baissé.
Oui, nous ce qui nous a en tout cas intéressé dans l'approche d'Ivancity, c'est un triptyque le troisième triptyque, celui de l'industrie, parce que effectivement on parle parfois d'intelligence artificielle mais ce qui nous intéresse aussi à nous, c'est de pouvoir préparer, comme je disais, des solutions de demain. Il y a un certain nombre de filières d'excellence industrielle en Île-de-France qu'on souhaite rappeler. Et puis, il y a cet aspect éthique, et donc qui est le deuxième patte. Et puis, l'interdisciplinarité qui est prônée par l'école, qui me paraît hyper importante. En fait, on a des écosystèmes académiques, universitaires en Île-de-France qui sont hyper puissants. Mais lorsqu'ils se rassemblent, et qui parlent entre eux, ils le sont encore plus. Et on voit souvent que les innovations, elles se font en fait aux frontières entre les disciplines. Donc c'est vraiment ça qui est intéressant aussi pour nous, de pouvoir pousser ce type de modèle dans un écosystème académique français qui a aussi ses institutions.
Vous parlez d'institutions. Et puis qui est reconnu, en fait. Voilà. On sait très bien que la formation française est très appréciée.
Voilà, elle est très appréciée. Maintenant, parfois, il peut y avoir une difficulté à appréhender la manière dont on peut effectivement travailler avec cet écosystème, avec qui est fait parfois d'acteurs publics, etc. Donc on a des pépites, je veux dire, hein, que ce soit le CEA, que ce soit l'INRIA, le CNRS, bien d'autres. Je pense que ce type d'approche apporte quelque chose aussi de neuf et qui est vraiment intéressant pour nous. Et vous parliez effectivement des femmes, ça s'inscrit dans le volet numéro 2. C'est effectivement, enfin Taoui donnera mieux que moi ses objectifs en la matière, mais qu'on parle effectivement de diversité au sens large, de place des femmes, c'est des réflexions qu'on a de plus en plus, même si c'est pas toujours facile par rapport à des projets internationaux entrants qui peuvent être sur avec une intégration, disons, de ces problématiques très différentes. Et donc, on essaie, en tout cas, à minima, de les sensibiliser, lorsque c'est pas nécessairement le cas, à ces thématiques, et de pouvoir, en tout cas, leur montrer l'excellence et l'approche européenne qu'on peut avoir sur ces sujets, qui est peut-être plus responsable et différente des approches qu'on peut avoir aux États-Unis, par exemple.
Alors, c'est vrai qu'on trouve les Français très bien formés, mais on reproche aussi à la France d'être trop cloisonnée. Est-ce que c'est ça aussi que vous voulez casser, Tawid Chiwi, avec cette école, justement, que dans nos cerveaux bien faits, on puisse mieux réagir, être plus agile, peut-être plus compréhensif, justement, de pouvoir mieux travailler d'une manière collaborative, intelligente, j'allais dire.
Vous savez, je voulais donner un exemple. À Harvard et MIT, quand on est dans la business school de l'une ou de l'autre, on ne valide pas son diplôme si on ne fait pas 20 à 30% de ses crédits dans les autres écoles de Harvard ou de MIT. Et on oblige les étudiants qui font des études de business à aller chercher des crédits et des matières dans les autres écoles de design, d'art, de philosophie, etc. Et c'est ce décloisonnement, il est extrêmement important. Parce que effectivement, ça va permettre d'ouvrir l'esprit et de comprendre que le monde professionnel, il n'est pas cloisonné. On ne prend pas une décision en réfléchissant uniquement marketing ou finance ou humain. On prend une décision nécessairement des applications stratégiques, commerciales, humaines, économiques, etc., etc. Donc il faut qu'on ouvre notre système et qu'on le sorte de cette logique disciplinaire qui est faite par des académiques pour des académiques, mais qui n'est pas faite pour l'employabilité de demain. On forme des étudiants à des métiers qui n'existent pas, pour des technologies qui n'ont pas été encore inventées et pour résoudre des problèmes dont on n'a pas connaissance. Une fois qu'on a dit ça, si on continue à avoir une logique technique disciplinaire cloisonnée, on n'a rien compris, on est complètement à côté de l'employabilité qui est la finalité ultime de nos institutions.
Alors justement, Philippe Blanchard, vous intervenez aussi aux côtés dans cette aventure, parce que vous voulez rapprocher le monde du sport et la technologie. Expliquez-nous un petit peu l'enjeu de Futurus et comment vous intervenez pour Ivan City.
Alors, mon objectif n'est pas de rapprocher le monde du sport et de la technologie, parce que la technologie est présente dans le sport. Moi, ce qui m'a plu dans l'aventure de Ivan City, c'est qu'elle mettait en perspective mon histoire personnelle. J'ai 3 enfants. J'ai travaillé longtemps au Comité international olympique à Lausanne. J'étais ensuite patron de la candidature de l'exposition universelle à Dubaï. Et ce que j'ai constaté, c'est qu'il y avait un découplage de plus en plus fort entre nous, humains, et la technologie. On subissait ces usages. On envoyait des éléments positifs, mais on n'en comprenait pas toute la complexité. Et donc, pour moi, la volonté de Futurus, c'était de lancer des compétitions de sport pour mettre en avant la technologie. Et je souris parce que, tout à l'heure, vous parliez avec Lionel de la mobilité. Nous, on a identifié 4 grandes familles technologiques qui vont changer radicalement notre rapport à nos communautés. La première, c'est l'informatique. Et donc derrière, on voit intelligence artificielle, on voit l'Internet des objets. Donc ça, c'est la première famille.
Ça existe encore, le mot informatique, pour vous ?
Je trahis peut-être mon âge en disant ça, mais c'est vrai qu'en général, on parle plus de information technologies. Mais pour simplifier, appelons ça technologie de l'information, vous avez raison. Donc ça, c'est la première famille. La deuxième famille, ce sont les technologies de la mobilité. Et nous, on les appelle les e-motions. On retrouve pour nous des compétitions de drones, par exemple. On va avoir des compétitions de véhicules autonomes ou des questions qui sont liées à des usages autour de la mobilité. Donc, première famille technologique, tout ce qui est technologie de l'information. Deuxième famille, les technologies de la mobilité. La troisième famille, pour nous, c'est la robotique. Et derrière la robotique, on parle aussi des exosquelettes. Et la quatrième famille, qui n'est pas vraiment une famille au sens scientifique et technique, mais on l'a différenciée, c'est tout ce qui est réalité augmentée, réalité virtuelle. Et donc nous, dans le cadre de Futurus, on organise des compétitions sportives ou des compétitions dans ces 4 familles avec de l'e-sport, avec des courses de drones, avec des courses de mobilité autonome, ou mobilité durable. On organise des compétitions de robots, on organise des compétitions de réalité augmentée, réalité virtuelle. Et ce qui est important par rapport à un autre thème que vous aviez évoqué, c'est que on a un objectif de changer la nature de la compétition et on veut que nos compétitions soient par équipe. Parce que le futur doit être collaboratif. Et donc je veux, nous voulons, que toutes les compétitions soient avec des équipes, avec dans la même équipe des hommes et des femmes, dans la même équipe des athlètes et des para-athlètes, dans la même équipe des sportifs et des e-sportifs, ou des humains et des robots. Je ne veux pas de compétition entre l'homme et le robot. Parce que demain, si on veut une société harmonieuse, nous devons apprendre à travailler avec les machines. Et donc, je suis très, très critique par rapport à une vision du Terminator. Non, c'est notre responsabilité de regarder comment on peut travailler. Donc, la nature même de la compétition par équipe change beaucoup de choses. Et j'ai regretté à titre personnel que, quand j'étais au CIO, on ait des compétitions d'hommes et des compétitions de femmes. Qu'on ait les Jeux Olympiques et après les Paralympiques. Pour moi, ça allait radicalement à l'encontre des valeurs qu'on mettait en avant, qui étaient des valeurs d'humanité et de respect de l'un de l'autre.
Certes, mais les capacités de l'être humain, homme et femme, ne sont pas les mêmes. Moi, je n'ai pas la même force que vous, qui êtes un homme. Donc déjà, je suis défavorisé pour une compétition.
Vous avez tout à fait raison, sauf si mon équipe, où je suis avec une femme, et votre équipe, où vous êtes avec un homme, sont en compétition l'une avec l'autre. On peut réinventer, on doit réinventer le format des compétitions.
Donc pour vous, le comité olympique qui organise les Jeux olympiques mondiaux doit se réinventer, si je comprends bien. Là, on sort un peu du sujet de l'intelligence artificielle, mais alors, quelques mots, puisque quand même vous étiez au comité olympique, on peut en parler.
Alors, je pense, et c'est une des raisons pour laquelle j'ai souhaité quitter le mouvement olympique, parce que j'en voyais les forces, j'en appréciais les forces, c'est une organisation exceptionnelle, mais j'en voyais aussi les limites. Et pour moi, l'opposition qui existe entre le comité olympique et le comité paralympique n'est pas nécessairement justifiée. Et je pense qu'il y a de nouvelles opportunités d'inventer des choses différentes. Et c'est ça qu'on veut faire, nous,
Futurus. Avec Futurus.
C'est ça qu'on veut faire avec Futurus. Après, on est bien évidemment prêt pour travailler avec le monde du sport parce qu'il y a beaucoup d'actifs et beaucoup de dynamiques qui existent. Le monde du sport dans le monde, c'est 676 milliards de dollars. Donc, il y a un écosystème extrêmement important. Et si on regarde le sport, le bien-être et quelques éléments de la santé, on est à 3 trilliards de dollars. Donc, croire que nous seuls, on pourrait tout changer, c'est une erreur. Par contre, on est un laboratoire d'expérimentation. Et on permet à des territoires, parce que cette notion a été évoquée aussi, on travaille aujourd'hui avec le département de l'Aube autour de l'abbaye de Clairvaux, on travaille avec l'Arabie Saoudite, on travaille avec la Russie. Les territoires, certains territoires ont compris que leur histoire, leurs enjeux du futur, les rendaient très très proches de la vision qu'on avait nous dans le cadre de Futurus, puisque on veut réconcilier l'humain et la technologie.
L'humain et la technologie, et c'est tout le but de votre entreprise, de travailler toujours dans le thème de la compétition, finalement, mais entre les machines, finalement, et les êtres humains, voire les deux ensemble.
Alors, il y a la compétition sportive, mais on peut aussi avoir, et je pense que c'est un élément qui est très important, une compétition où les gens votent, mais on peut avoir une compétition artistique. On peut faire voter des gens dans un défilé de mode d'exosquelettes. On peut faire voter des gens sur des wearables, donc de l'électronique embarquée sur nos... Mais pourquoi cette dimension de la compétition est importante? C'est parce qu'elle crée de l'émotion, elle mobilise les gens. Et un des enjeux qu'on a rencontré, ou qu'on a réconcilié en travaillant avec Tawid, c'est justement le fait qu'au travers du sport, on inspire les gens, on les motive. Le sport est un très très bon outil aussi de sevrage numérique. Et ça, il ne faut pas l'oublier parce que c'est un véritable enjeu par rapport à nos sociétés. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas de technologie, mais il faut des équilibres dans la technologie. Et le sport nous permet de nous réconcilier avec notre corps et avec notre environnement. Et donc, cette dimension compétition est importante, mais pas uniquement sportive, elle peut être aussi artistique et culturelle.
Merci beaucoup Philippe Blanchard, c'est très intéressant ce que vous venez de dire, l'objet donc de Futurus, votre entreprise, de rapprocher donc le sport et la technologie. Vous avez parlé de compétition à venir, de drones, de véhicules autonomes, on est très intéressé. Mais j'allais dire, alors deux questions. D'abord, la compétition, c'est quand même un moteur de l'être humain malgré tout, mais et même si le jeu nous rapproche et qu'on voit qu'on peut se défouler quand on suit des compétitions, même si on n'est pas soi-même jeunes participants. C'est aussi une des sélections en université aux États-Unis. Donc là, ça va être une question pour Tawi Chiwi. Est-ce que la compétition, finalement, c'est pas un bon moyen de sélection, plutôt que toujours les calculs et les mathématiques ou la physique? Et puis, deuxièmement, avec la pandémie, Philippe Blanchard, est-ce que ça va modifier la manière de faire des jeux, des compétitions? Est-ce que, parce que vous avez parlé de faire des choses à distance, notamment dans la mode.
Alors, pas uniquement dans la mode, mais je pense que le sport reste une dimension physique, et donc c'est notre corps et c'est un environnement qui existe. Et ça ne changera jamais, et on peut le garder. Par contre, avec la technologie, d'une part, avec les contraintes, d'autre part, on peut changer l'exercice du sport. Le Tour de Suisse, durant les mois d'été, a eu lieu sur des vélos d'appartement qui étaient connectés les uns aux autres. Et donc, les équipes avaient une mesure de leur performance, se positionnaient par rapport à leurs compétiteurs, et les galets d'entraînement sous leur vélo intégraient des éléments de résistance qui étaient liés au fait qu'ils étaient en train de monter ou en train de descendre. Donc, la technologie existe et nous permet de changer l'exercice du sport. Sur la question que vous évoquiez de la sélection ou de la compétition, je pense, pour avoir voyagé dans beaucoup de pays, je pense que la perception du sport compétition évolue. Et si vous regardez en Asie, par exemple, qui aujourd'hui est très compétitive, les Chinois sont très compétitifs et investissent beaucoup d'argent dans les meilleurs entraîneurs, les meilleurs joueurs. Mais historiquement, l'approche du sport pour eux était beaucoup plus une question d'équilibre. Et ce que l'on appelle, nous, les sports de combat, eux, ils appellent ça des arts martiaux. Donc, on oppose la dimension sport, qui est une version très anglo-saxonne et même britannique, de leur approche, qui est une approche plus
d'équilibre.
D'équilibre. Et aujourd'hui, avec la globalisation, avec les contraintes du Covid, avec la technologie, on a l'occasion justement de réinventer ou de revisiter ces différentes questions qui nous paraissaient inscrites dans le marbre précédemment. Et on peut changer tout ça pour proposer des nouveaux espaces de compétition et d'éducation.
Alors, vous avez donné un premier exemple, le sport en Suisse, le vélo. Est-ce que vous allez mettre en place d'autres compétitions? Quand, dans les prochaines semaines, et où?
Alors,
Philippe Blanchard,
on est en train de travailler, par exemple, je vous parlais du département de l'Aube, qui est un département qui est extrêmement intéressant parce qu'il a une histoire très, très forte. Et les dirigeants du département se sont intéressés justement à notre approche, puisqu'on voulait avoir une dimension physique et une dimension distante. Et donc, on est en train de travailler autour de l'abbaye de Clairvaux sur un certain nombre de compétitions. Il y a un peu trop tôt pour en parler. Mais on aura donc des sortes de jeux vidéo. Et après, on pourra parler du jeu vidéo parce qu'il y a une dimension physique dans le jeu vidéo. Il y aura des jeux vidéo et des compétitions physiques qui permettront, dans l'abbaye de Clairvaux, de mettre en avant l'histoire de Clairvaux et de rappeler que, et ça on en parle aussi tout à l'heure, la technologie doit s'inscrire dans une histoire et pas être en rupture par rapport à notre histoire et par rapport à notre passé.
Alors, si un département est intéressé, je pense au département français, évidemment, puisqu'on est une radio française, quel budget faut-il envisager? Alors, vous allez me dire, ça dépend des jeux, bien sûr, mais déjà, donner l'heure, une première indication de comment on fait. Et puis, on va quand même rappeler aussi, si on veut vous contacter, comment fait-on?
D'accord. Pour une compétition multidisciplinaire, on a des budgets entre 250 350 000 euros. Et ensuite, on peut aller beaucoup plus loin en fonction du nombre de personnes qu'on veut impliquer, la dimension internationale, la technicité aussi qu'on va retenir. Mais ce qui est important pour nous, c'est vraiment pouvoir comprendre les besoins des territoires et de mobiliser les acteurs du territoire. On ne veut pas, et je ne veux plus, arriver sur un territoire en disant « je viens du CIO, je viens des expositions universelles, je sais ce qui est bon pour vous, faites-moi confiance ».
Ce langage-là, c'est fini.
C'est fini. Il faut du co-développement, et notamment parce qu'il faut s'inscrire dans l'ADN et les compétences de la région. C'est le seul moyen de faire quelque chose qui est utile et qui apporte une valeur ajoutée à tout le monde.
Merci Philippe Blanchard, effectivement c'est très intéressant. Alors comment intervenez-vous tous les deux, Tawi Chiwi, avec Philippe Blanchard?
Vous permettez, qui est celle de la
Bien
compétition,
sûr.
Moi ce qui m'intéresse dans le sport, quand on va sélectionner les étudiants qui sont des sportifs de haut niveau, c'est pas la performance physique, c'est les valeurs que véhicule le sport. C'est-à-dire, c'est cette capacité de travailler avec les autres, de respecter l'esprit de compétition, la tolérance, la combativité, la capacité de gérer ses émotions, la force mentale. C'est ça ce qui est important dans le sport. On a tendance à l'oublier. C'est les valeurs que ça véhicule. Et on peut aussi s'appuyer sur le sport pour pouvoir davantage diffuser ces valeurs-là.
Et l'envie de réussir aussi,
c'est très important. Bien sûr, rendre les gens responsables ou rendre les gens tolérants, c'est pas en faisant des cours sur l'éthique qu'on rend les gens éthiques ou responsables. C'est pas dans la salle de classe que ça va se passer. C'est par un certain nombre d'activités, dans le sport, dans l'associatif, etc., qu'on va pouvoir stimuler cette responsabilité et cette capacité d'œuvrer positivement pour la société de demain. Et c'est ça ce qui m'intéresse dans le sport. Et c'est pour ça qu'en travaillant ensemble, on se disait aussi, d'abord, bon, on parle de plus en plus de sport augmenté aujourd'hui, hein. Les meilleurs sportifs, c'est pas ceux qui ont la meilleure performance physique, c'est souvent ceux qui ont les meilleures équipes techniques, la meilleure IA, les données les plus développées. On l'a vu dans toutes les compétitions, dans le tennis, dans le foot, etc. Les équipes, comment effectivement elles s'appuient sur les données pour pouvoir améliorer leur performance. Et donc voilà, on aura un sport de plus en plus augmenté, et donc où l'IA sera utilisée, où les données seront très 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 importantes pour l'analyse et pour pouvoir améliorer les performances. Et donc du coup, effectivement, on sait qu'il y aura un impact important sur le monde du sport, et c'est pour ça que c'est un secteur qui sera transformé par le domaine de l'IA. Et pour nous, c'est important d'avoir des secteurs d'application émergents où l'intelligence artificielle va jouer un rôle, où la science de données va jouer un rôle important, et on peut y apporter notre contribution, notamment en matière d'éthique et de responsabilité. Encore une fois, c'est très très important pour nous. C'est vrai, quand on parle de e-sport ou de jeux vidéo, on a tendance à parler de l'aspect addictif, négatif, etc. Bah, comment on peut, avec tous ces jeunes qui pratiquent ces jeux vidéo, ces sports en ligne, comment on peut véhiculer des valeurs qui sont plutôt liées au monde sportif classique? Et donc c'est là où on peut travailler ensemble, c'était un des enjeux de discussion qu'on a eu. Comment nous, on peut apporter, en tout cas, d'une façon beaucoup plus forte, ces valeurs et ces dimensions de responsabilité dans le e-sport.
Philippe Blanchard.
Alors, deux choses peut-être. La première, par rapport à l'e-sport, on a une vision très, très négative de l'e-sport, et on imagine un jeune adolescent boutonneux affalé sur son divan, en train de manger des chips et faire des jeux vidéo. Pour être bon dans un jeu vidéo, vous devez faire du sport. Vous devez courir, vous devez vous entraîner, parce que c'est à la fois des capacités cognitives, mais aussi des capacités physiques. Et donc, les meilleurs joueurs de e-sport ont des disciplines qui sont les mêmes que celles que j'ai connues quand j'étais au mouvement olympique. Et ça, il faut le rappeler, parce qu'il y a beaucoup d'idées qui sont préconçues. Et si on veut motiver un jeune à être bon dans le jeu vidéo, eh ben, il a intérêt de comprendre qu'il faudra aussi qu'il fasse du sport. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, par rapport à ce que dit Tawid, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Pendant très longtemps, le sport a été le corps sain dans un esprit sain. Le corps sain dans un esprit sain. Donc le sportif était responsable de sa prestation physique et de sa réflexion par rapport à sa prestation physique. Et il y a un enjeu éthique majeur, que le sportif devienne uniquement un robot et que toutes les informations lui soient envoyées par oreillette, et qu'on n'ait plus cet équilibre entre corps sain et un esprit sain. Et ce que j'ai adoré dans les discussions qu'on a pu avoir avec Tawid, c'est que la dimension éthique, et il en a parlé, 25% des cours, la dimension éthique est essentielle. Le monde du sport a énormément à perdre et énormément à gagner avec un bon usage de la technologie et en travaillant intelligemment. Et c'est pour ça qu'on a proposé, nous, d'apporter notre expérience, notre réseau, de montrer comment le sport est un des secteurs d'activité où la donnée va être essentielle. Il y a des énormes opportunités, mais il y a aussi de très gros risques.
Et alors, quels sont les risques pour vous, justement, Philippe Blanchard, hormis le fait qu'on devienne finalement enchaîné à nos outils?
Alors, il y a plusieurs risques qui sont liés à la technologie, et on en parlait, mais je pense que, enfin, j'ai confiance en la nature humaine énormément, et je sais qu'il y a toujours des phases de balancier, et qu'aujourd'hui, on est dans une phase peut-être où on est un peu moins en contrôle, mais je pense qu'il y a un réveil aujourd'hui. Je pense que des initiatives comme celle de Tawid, la vôtre aussi, permettent de répondre à des questions et d'engager un dialogue. Donc ça, c'est un premier élément qui est un élément positif. La deuxième chose par rapport au risque, c'est que l'intelligence artificielle augmente tout ce qui est prédictabilité de la compétition. 90% des gens vont regarder un match de foot s'ils ne connaissent pas le score final. Quand on connaît le score final, on perd 90% du lectorat parce qu'il n'y a plus l'émotion qui est liée au sport. Et on parlait de l'émotion tout à l'heure, c'est très très important. Et donc, la question du dopage a été quelque chose qui a été fortement mis en avant par le mouvement olympique et sportif. Je pense que c'est effectivement important, mais je suis plus inquiet par la question des paris en ligne et tout ce qui est collecte d'informations pour récupérer des informations précises sur les performances de l'athlète, sur les potentialités de gain de l'équipe, parce que là, je pense que ça va changer beaucoup de choses. Et justement, Futurus nous permet de proposer quelque chose où il n'y a pas uniquement cette compétition au sens sportif, mais on revient sur une compétition au sens plus holistique, avec une dimension artistique, une dimension culturelle, et c'est ça aussi qu'il faut rappeler.
Alors, vous parlez d'émotion, on a parlé de réalité virtuelle. Tawid, Chiwi, j'avais envie de vous demander, est-ce que les cours en réalité virtuelle, est-ce que pour vous, la réalité virtuelle va s'immiscer dans vos cours? Comment allez-vous faire vos cours? Parce que finalement, on se rend compte que les jeunes, ils sont habitués à être agiles, à naviguer sur Internet. Plus personne ne regarde la télévision, ils regardent sur les réseaux sociaux. On voit bien que les cours didactiques... ils n'ont plus envie. Comment vous allez faire ?
Moi, je pense que la dimension digitale dans l'enseignement, elle est très discriminante. J'ai deux filles, un garçon par ailleurs, mais deux filles. Il y en a une pendant la période de confinement qui s'est très, très, très bien sortie avec la dimension distancielle. Il y en a une complètement décrochée. Et je me dis, le digital n'est pas censé remplacer l'expérience physique et l'accompagnement qu'on est censé faire pour les étudiants, parce que sinon on créera plus de discrimination entre ceux qui sont capables d'avoir une certaine autonomie et de suivre et ceux qui ne le sont pas. Et c'est pas notre métier. Notre métier, c'est d'accompagner aussi tout le monde et d'essayer de les faire progresser. Donc le digital pour nous, en tout cas, c'est une façon d'apporter une individualisation à l'enseignement. Et c'est le plus grand enjeu de la pédagogie de demain. C'est de mettre 100 personnes dans le même amphithéâtre et de leur donner 100 contenus différents. Parce qu'ils n'ont pas la même façon d'apprendre, parce qu'ils n'ont pas les mêmes aspirations, parce qu'ils n'ont pas les mêmes backgrounds, parce qu'ils n'ont pas la même capacité de résoudre la difficulté. Donc du coup, il va falloir apporter un peu plus d'individualisation et de personnalisation de l'enseignement. Et c'est là où le digital, et c'est là où l'intelligence artificielle peut apporter toute sa puissance. C'est de façon à ce qu'on puisse avoir des contenus personnalisés, des niveaux de difficulté qui s'adaptent à chaque apprenant. Et ça, le digital peut apporter sa contribution. Donc je pense qu'effectivement, tout ce qu'on voit aujourd'hui, la réalité virtuelle, immersif, le digital. Bon, on a un contexte qui nous a obligés sans doute à aller vers ça, mais dans notre modèle, il y aura 2000 heures d'enseignement en présentiel.
De toute façon, les étudiants le demandent. La sociabilisation, c'est quand même important pour des jeunes, parce qu'on peut pas ne plus avoir de rapport humain, c'est impensable. On voit bien, les jeunes, ils ont envie de se retrouver, d'aller boire un verre ensemble. Enfin, vous qui avez des enfants, vous le voyez bien. Donc, effectivement, merci en tout cas pour ce commentaire, et ça nous rassure quelque part. Après, je vous demanderai quand même les prix. Évidemment, on parlera des prix et puis de comment on rentre dans cette école. Mais Lionel Grotteau, j'avais envie de vous demander. On a l'impression, justement, moi, ça fait 4 ans que je fais des émissions économiques et que j'essaye de promouvoir justement les nouvelles entreprises et les anciennes pour mettre tout le monde autour de la table entre les institutions, les élus et les entreprises. On a l'impression que en 2020, la France, grâce à la pandémie, finalement, a enfin reconnu l'économie et que l'économie c'était important et qu'il fallait, comme a dit Philippe Blanchard tout à l'heure, qu'il fallait être beaucoup plus modéré. C'est pas une technologie plus noire ou plus blanche ou voilà, il fallait quand même un peu faire réunir un peu tous les acteurs différents dans différents domaines. Qu'est-ce que vous en pensez, Lionel Grotteau?
C'est un beau message d'optimisme en tout cas, et je suis ravi que vous le portiez. Nous, c'est vrai que une des grosses actions qu'on mène, alors on a plusieurs types d'actions, mais une des grosses actions qu'on mène, c'est de partager beaucoup avec nos partenaires les actions, de pouvoir partager des stratégies, de pouvoir faire remonter aussi des initiatives, de pouvoir prendre leurs idées. Et donc, un des formats qu'on a mis en place, c'est ce qu'on appelle un comité des territoires, dans lequel on associe effectivement essentiellement des intercommunalités qui sont notre partenaire locaux. Parfois, on peut effectivement travailler également avec des maires sur des projets concrets. On travaille avec, par exemple, la MIF, l'Association des maires d'Île-de-France. Mais donc, pour revenir, des intercommunalités avec différents acteurs qui travaillent autour de l'économie, qui sont les pôles de compétitivité qui sont des grands acteurs des infrastructures en Île-de-France. Donc on a parlé de groupe ADP, Aropa autour des sujets des ports, tous les grands aménageurs d'Île-de-France, puisqu'il y a en Île-de-France tout un écosystème d'aménageurs. Et donc tous ces partenaires, on les réunit. Et pendant la pandémie, effectivement, c'était beaucoup plus simple. Et donc on avait effectivement des calls sur lesquels on était jusqu'à 80. Alors après, on a effectivement des démarches qui peuvent être plus territorialisées et plus individualisées. Mais en tout cas, effectivement, une capacité, je pense que la France a montré en tout cas sa capacité à travailler avec ce mode de travail à distance, en fait, avec des infrastructures. En fait, ce que ça a montré, c'est que les infrastructures étaient au niveau, ce qui n'était pas forcément le cas dans d'autres pays. Hein. Même au Royaume-Uni, on a eu des exemples où des entreprises n'arrivaient pas à passer au télétravail parce que l'infrastructure n'était pas là. En Île-de-France, aujourd'hui, c'est le très haut débit quasiment partout. Les dernières prises de fibres pour les dernières
régions. En tout cas, pour la région Île-de-France, c'est pas valable dans toutes les régions de France quand même. Je mets un petit bémol. Il y a encore des régions qui sont un peu en attente. C'est pour 2022, malheureusement. Mais bon, c'est comme ça. On peut pas fibrer tout d'un coup. Je vous laisse poursuivre, Lionel Grotto.
Effectivement, vous avez raison. Mais effectivement, je pense en tout cas, un certain nombre d'entreprises aujourd'hui sont en difficulté et vont l'être dans les prochains mois. Donc ça, on le sait. Et oui, l'importance de l'économie, elle est effectivement, je l'espère, qu'elle va être aussi de plus en plus reconnue et que oui, ce type de message autour du fait qu'avec l'innovation, avec les technologies, on peut effectivement proposer des opportunités pour des jeunes de l'emploi et sur des métiers qui font du sens autour de thématiques positives. Je pense que c'est ça qu'on porte en Île-de-France, une idée d'une région dynamique, innovante, mais aussi éthique et responsable, qui invente les technologies de demain.
Alors justement, le télétravail, pour vous, c'est quelque chose de bénéfique ou bien, enfin, on voit qu'il y a des avantages et des inconvénients. Est-ce que vous, à l'agence Choose Paris Région, vous le pratiquez? Alors, Est-ce que vous allez le poursuivre?
Alors nous, il se trouve qu'on est effectivement depuis le jour 1 du 13 mars ou 16 mars, je ne sais plus, en télétravail, effectivement, pour toutes les fonctions, complètement. Donc on a effectivement, pendant toute la période épidémique, poursuivi sur ce mode-là, et ça a extrêmement bien fonctionné en réalité. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a quand même un enjeu de pouvoir se voir, se rencontrer, mais le mode physique aujourd'hui doit aussi être associé à autre chose. Et je pense que c'est toute la réflexion qu'il peut y avoir. Il y a un énorme marché de bureaux en Île-de-France, et donc énormément de personnes qui réfléchissent à ça. C'est d'ailleurs assez impressionnant, on avait des salons autour de l'immobilier ces derniers temps. Je pense qu'en Île-de-France, il y a des capacités aussi pour inventer des nouvelles manières de travailler. Se voir, c'est aussi peut-être davantage, pas pour venir au bureau et se mettre à son desk et faire son truc tout seul, ou rentrer dans un meeting à 15 personnes, mais c'est aussi peut-être rentrer en contact tout simplement avec les gens, échanger, discuter. Et je pense que c'est ça qu'il faut réinventer, pour réinventer un peu, entre guillemets, le bureau de demain et la nouvelle manière de travailler ensemble.
Pour vous, le télétravail doit être un choix du salarié, enfin de celui qui travaille, ou bien est-ce qu'il faut qu'une entreprise, pour vous, l'impose? Qu'est-ce que vous en pensez? Qui veut répondre à la question? Tawi Chiwi.
Non, juste pour dire que on a formé nos managers à faire du présentiel, à faire des réunions, à organiser des choses. Et aujourd'hui, on leur dit de faire du management distanciel qui n'a pas les mêmes principes, les mêmes modalités et les mêmes outils que le management traditionnel. Donc si on veut aller vers un peu plus de distanciel, de télétravail, il faut aussi qu'on accompagne les managers à gérer à distance. Et c'est pas du tout la même problématique. C'est pour ça que les expériences, moi, quand je pose la question à des gens qui font du télétravail, il y a des gens qui disent que c'est catastrophique parce que voilà, ils ont un management qui fait que ça ne donne pas la souplesse qu'il est censé donner et ça ne donne pas les capacités et l'accompagnement parce qu'ils sont perdus, parce qu'ils ne savent plus quoi faire, parce qu'ils n'ont pas la capacité d'aller voir quelqu'un pour dire comment je peux accompagner ou avancer, et d'autres qui ont une expérience très positive. Donc il faut qu'il y ait aussi un accompagnement des dirigeants et des managers et des entreprises à pouvoir passer à une étape où le distanciel est beaucoup plus important.
Merci beaucoup Tawi Chiwi. Il nous reste à peu près 4 minutes d'antenne. Donc j'avais envie de vous demander, Tawi Chiwi, d'abord de rappeler le nom de votre école, si on veut vous contacter, comment on fait, combien vont coûter les formations, est-ce que donnez-nous des idées, et puis au niveau de la sélection, est-ce que ça va être un concours, comment vous le pensez?
Alors, Ivan City School for Technology, Business and Society, Paris-Cachan. Donc, on peut nous contacter via notre site, ivancity.ai, AI pour Artificial Intelligence. C'est le meilleur moyen de nous contacter aujourd'hui. Évidemment, on a des concours tout au long de l'année pour pouvoir accompagner l'intégration dans nos différents programmes de formation. Les frais de scolarité sont entre 8 000 et 15 000 euros en fonction du programme par an, avec une dernière année en apprentissage et avec un système de bourse pour les, sur des critères sociaux et des critères d'excellence académique qui est très important pour nous. On s'est doté d'un fonds de dotation. On va financer une vingtaine jusqu'à 20 bourses gratuites et totales de frais de scolarité dès la première année sur l'ensemble du cursus de l'étudiant. Et puis, on veut monter un peu plus si on arrive effectivement à être accompagné par des entreprises notamment. Donc voilà globalement. Et évidemment, c'est un système de concours pour l'ensemble de nos programmes qui est un concours propre qui va se dérouler tous les mois.
Très beau projet, on vous souhaite beaucoup de succès. Bien sûr, Philippe Blanchard, pour vous contacter, quel futur faut-il vous souhaiter justement?
Alors, un futur collectif, parce que, comme je le disais, le futur doit être collaboratif. Donc, on réussira tous ensemble ou on échouera tous ensemble. Et pour nous contacter, le plus simple, c'est notre site internet et l'adresse notamment team@futurous.org.
Je pense pas qu'il y ait des échecs, je pense qu'il n'y a que des expériences. Pour vous, Laurent Grotteau, qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter? Quel futur, en conclusion?
Je rejoins assez le message de Philippe. Je pense que si on arrive à construire ensemble des visions partagées des territoires, de ce qu'on veut devenir, de pas subir la technologie, l'innovation, d'arriver à avoir cette étape précédente qui est de penser, de s'autoriser à être créatif aussi, parce qu'on est une nation qui a l'avantage d'être hyper créative. Je pense qu'on a on a toutes les cartes pour réussir et rester attractif et attirer des emplois pour la population.
Alors, pour vous contacter, on va rappeler l'adresse. Comment fait-on, Lionel Grotteau?
On est effectivement, vous pouvez nous retrouver sur LinkedIn, sur Twitter et également sur notre site internet chooseparisregion.org pour nous contacter.
Donc si vous avez des beaux projets, allez-y. Et puis je vous rappelle donc l'appel à projet autour de la mobilité du taxi volant, donc qui s'est donc à s'inscrire à partir d'aujourd'hui. Pour ça, on peut aussi aller, j'imagine, sur le site de Paris de l'agence Choose Paris Région et vous réaiguiller vers le site que vous venez de créer, j'imagine, Lionel Grotteau.
Absolument, c'est en ligne.
Et voilà, cette émission s'achève. Bon, évidemment, on a essayé, on traite comme tous les mois du sujet de l'intelligence artificielle. Merci à vous trois pour votre présence. Merci. Malgré la pandémie. Je vous retrouve bien sûr dès lundi et puis d'ici là, je vous souhaite un très bon week-end. Ciao, ciao.